Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du rugby à 13. Le rugby à 13, appelé rugby league dans les pays anglophones, est un sport collectif de contact opposant deux équipes de 13 joueurs sur un terrain rectangulaire de 68 mètres de large et 112 mètres de long. Au niveau du jeu, l'équipe qui défend tente d'essayer d'arrêter le joueur porteur du ballon en l'attrapant et en l'amenant au sol. C'est un plaquage. Lorsqu'un joueur est plaqué, son équipe garde la possession de balle mais perd une phase de jeu d'attaque, la tenue. L'équipe attaquante possède 5 tenues. Si un joueur est plaqué au 6e et dernier tenue, la balle sera rendue à l'équipe adverse qui entamera à son tour une nouvelle séquence de jeu. Le rugby à 13 est né à Huddersfield, dans le Yorkshire, en 1895, d'une scission au sein de la Rugby Football Union. La base de la scission était la compensation des heures de travail perdues par les joueurs lors des entraînements, des matchs, des transports ferroviaires, la plupart de conditions ouvrières, ce que les clubs du sud de l'Angleterre, et Londres en particulier, refusaient. Les clubs du nord de l'Angleterre sont à l'origine de cette évolution. En juillet 1895, 20 clubs du Yorkshire et du Lancashire décident de payer le manque à gagner, 6 shillings, à leurs joueurs. Réunis le jeudi 29 août au George Hotel de Huddersfield, ils font scission et créent une fédération autonome, la Northam Rugby Football Union, qui deviendra en 1922 la Rugby Football League. Le nombre de joueurs n'est cependant passé de 15 à 13 qu'en 1906. L'objectif dans le rugby à 13 est de marquer plus de points que l'adversaire en inscrivant des essais. Un essai vaut 4 points derrière la ligne de but adverse, complété par des transformations, 2 points. Des points peuvent être aussi obtenus par des pénalités, 2 points, ou des drops, 1 point. La défense doit stopper la progression du porteur du ballon en le plaquant. Il est possible de marquer un essai à 8 points, mais c'est un fait beaucoup plus rare. Les principales compétitions de clubs sont la National Rugby League, NRL, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et la Super League en Europe. Sur la scène internationale, il est régi par l'International Rugby League et disputé principalement en Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, France et dans les îles du Pacifique. Le rugby à 13 est sport national en Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Cook. La Coupe du Monde, créée en 1954 en France, est la première compétition mondiale de rugby, tout code confondu. Elle a lieu tous les 4 ans depuis les années 2010 et son tenant du titre est actuellement l'Australie depuis 2022. Retour en France. Le visage de Jean Galia apparaît sur les bords du Lot en 1930. Il signe au club athlétique villeneuvois, 15, après son sacre national, en rugby à 15, avec Quillan en 1929. Cet avant costaud de 85 kg pour 1m80, champion de France de boxe, poids lourd en 1929, compte 5 sélections en équipe de France entre 1927 et 1931, dont il a été le capitaine. En janvier 1933, il est radié du rugby à 15. La Fédération française de rugby ne goûte pas sa participation au transfert du joueur de Perpignan, Noguer, vers Villeneuve-sur-Lot. Une fédération qui n'est pas au mieux. Elle est mise sur la touche par le board anglo-saxon du tournoi des Cinq Nations de 1931-1947 pour violence et amateurisme marron. À l'époque, en effet, toucher de l'argent pour des défraiements est considéré comme un acte professionnel. Jean Galia est alors séduit par le match d'exhibition disputé le 31 décembre 1933 au stade Pershing, à Paris, entre les 13istes australiens qui battent les 13istes anglais 61-13. Un rugby pareil, ça se décrit pas, déclare l'athlète et homme d'affaires, ça se déguste comme un mets rare. Dans le même temps, ce fils d'un maraîcher d'Isle-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales est missionné par les Britanniques de la Rugby Football League pour organiser début 1934 une tournée d'initiation en Angleterre. Cette formation pionnière, appelée les Gallia Boys, rassemble 17 joueurs mis au banc de la fédération quinziste. Jean Gallia meurt prématurément d'une crise cardiaque à seulement 43 ans. La Ligue française de rugby à 13 naît le 6 avril 1934. Dès septembre débute le championnat initial comprenant 10 équipes. Villeneuve-sur-Lot, Albi, Bordeaux, Béziers, Perpignan, Côte Basque, Anglet de Bayonne, Roanne, Lyon-Villeurbanne, Pau et Paris. Lors de l'immédiat avant-guerre, ce jeune sport connaît un engouement particulier, favorisé tant par la situation pénible du 15 et la conversion d'une partie de la presse et de la classe politique attirée par son propre dynamisme. La sélection nationale joue son premier match international le 15 avril 1934, en France, au stade de Buffalo à Montrouge, banlieue sud de Paris, contre l'Angleterre. En 1939, elle remporte la Coupe d'Europe des Nations devant l'Angleterre et le Pays de Galles. Tant l'extrême violence de plusieurs rencontres de rugby à 15 en France que la suppression des relations entre le rugby à 15 britannique et français ont fait que la Fédération française voit ses effectifs diminuer très fortement. Elle périclite de 784 clubs en 1930 à 663 en 1934 et 558 en 1939. De nombreux clubs quinzistes ont purement et simplement arrêté le rugby et de nombreux autres rejoignent le rugby à 13. La fédération de rugby à 13, partie de zéro en 1934, est en plein essor, à grand renfort de presse et de sponsors, et comprend 155 à 160 clubs en 1939, et son championnat professionnel regroupe 14 équipes. L'interdiction du rugby à 13 en France pendant l'occupation allemande découle d'un décret signé par le maréchal Pétain le 19 décembre 1941 et publié au journal officiel du 27 décembre 1941, portant dissolution des fédérations de sport professionnels, parmi lesquelles la Ligue française de rugby à 13. Effective 17 mois après l'établissement du décret, la dissolution implique l'interdiction de la pratique du rugby à 13, la liquidation du patrimoine et son transfert au Comité national des sports. Cette décision trouve son origine dans le volet sportif du projet de révolution nationale porté par le régime de Vichy qui vise à bannir le professionnalisme du sport. Elle s'appuie sur le principe de résurrection morale de la France qui doit passer par une remise en forme physique selon la formule « être fort pour mieux servir » ou encore « être fort pour être utile ». Vichy voit dans le sport professionnel une dérive vers la compétition à outrance et une spécialisation considérée comme inutile moralement et physiquement, car elle ne peut qu'aboutir au spectacle et au professionnalisme. Cette vision est inspirée par la vision de Pierre de Coubertin, chantre de l'amateurisme sportif pur et dur, et de l'officier de marine, Georges Hébert, promoteur d'une méthode d'éducation physique naturelle, l'hébertisme, opposé à la gymnastique suédoise et à la spécialisation sportive importée du monde anglo-saxon. Derrière ces deux formules, le but était de contrôler rigoureusement la jeunesse, les associations sportives et leurs fédérations respectives. C'est d'ailleurs à cette époque que les écoliers français apprennent à courir, sauter et grimper et que sont créés les crêpes régionaux. Trois hommes au moins concourent à mettre en place cette politique dirigiste, dont l'un des piliers est le bannissement du sport professionnel importé du Royaume-Uni. Le premier, Jean Ibarnegaray, basque natif de Uarsis dans les Pyrénées-Atlantiques, l'ancienne Basse-Pyrénées à l'époque, président fondateur de la Fédération française et de la Fédération internationale de pelote basque, député et membre du Parti social français, nommé ministre d'État en mai 1940, chargé de la jeunesse et de la famille. Jean Borotra, l'ancien joueur de tennis international de renommée mondiale, membre du Parti social français, il occupe la fonction de commissaire général au sport d'août 1940 à avril 1942. Et enfin, Joseph Pascot, ancien joueur de rugby et champion de France avec Perpignan, il est directeur des sports sous Jean Borotra, puis lui succède en tant que commissaire général au sport d'avril 1942 à juillet 1944. Le 17 octobre 1940, Albert Ginesti, président de la Fédération française de rugby à 15, et le Toulousain Paul Voisvenel, président d'honneur de la Fédération française de rugby et auteur en 1942 de l'ouvrage « Mon beau rugby » qui refuse l'existence du rugby à 13, milite pour l'interdiction du rugby à 13. Un rapport est remis en ce sens à Jean Borotra. La pratique du rugby à 13 est interdite le 19 décembre 1941 et les effets sont immédiats pour la Fédération. Durant la même période, le tennis et la lutte durent simplement rejoindre le statut amateur, tandis qu'un délai de 3 ans est accordé au football, au cyclisme, à la boxe et à la pelote basque. Vichy raya ainsi de la carte sportive française d'autres fédérations amateurs unisports de moindre importance en les mettant sous tutelle d'une autre fédération et captation de leurs biens par celle-ci, comme le tennis de table, le jeu de pommes, le badminton, mis sous tutelle du tennis. Mais également des fédérations amateurs multisports, dont il saisit les biens mobiliers et immobiliers, comme ceux de la Fédération sportive et gymnique du travail, FCGT, ou l'UCEP, qui représente le sport dans le primaire. Dans le même temps, entre juin et septembre 1941, le régime de Vichy autorise la création en France d'une nouvelle fédération sportive, le handball, d'origine allemande, codifié entre 1917 et 1920 et dérivé de notre jeu allemand, le torball. Selon une ordonnance du 2 octobre 1943 du Comité français de libération nationale, rendue applicable par l'ordonnance du 9 août 1944 du gouvernement provisoire de la République française, les associations supprimées retrouveront une existence juridique et légale de plein droit et se voit bénéficier d'une restitution, rétrocession des biens à tout groupement, association, fédération sportive légalement constituée et existant au 16 juin 1940. Néanmoins, il faudra attendre la libération d'une grande partie de la France et le 17 septembre 1944 pour que la Ligue française de rugby à 13 renaisse à Toulouse. La Ligue française de rugby à 13 est donc reconstituée. Et en octobre 1944, relance ses championnats et coupes sous l'impulsion des anciens et nouveaux dirigeants de ces clubs. La grande majorité de ces anciens joueurs qui avaient été contraints de s'exiler dans des clubs de rugby à 15 pour pratiquer le rugby sont de retour et avec le soutien de Paul Barrière, leur président, natif d'Espéraza dans l'Aude, ils retrouvent une existence officielle auprès du Conseil national des sports, présidé par Alfred Éluère, le président de la Fédération française de rugby, et cela en 1946. La Ligue française de rugby à 13 ne retrouvera toutefois pas tous ses biens mobiliers, parfois attribués au rugby à 15, ou à d'autres sports tels le handball, introduit donc en France en septembre 1941, ou tout simplement au Comité national des sports. En juillet 1947, puis en juillet 1948, après avoir subi les brimades du régime de Vichy, ne voulant ni être mis au banc des sports français, ni se suicider, ou ne sachant pas faire face, la Ligue dut prendre une nouvelle dénomination fixée par l'arrêté du 11 avril 1949, publié au journal officiel du 22 avril 1949. Jeu à 13. Pour sa pratique amateur, il est à noter que Jean Gallia est le père, depuis mars-avril 1934, du terme jeu à 13. Et pour les semi-professionnels ou professionnels, la Ligue de rugby à 13. En 1985, Jacques Sopelsa, président de la Fédération française de jeu à 13, lance une procédure afin de retrouver l'appellation rugby à 13. Et il obtient gain de cause après une bataille juridique avec la Fédération française de rugby à 15, alors présidée dans un premier temps par Albert Ferras, de 68 à 1991, puis dans un deuxième temps par Bernard Lapassé de 1991 à 2008. Le 31 mars 1989, le Conseil d'État, statuant au contentieux, rend un arrêt contre le ministère de la Jeunesse et des Sports qui, pour sa délégation de pouvoir aux fédérations sportives, continue à utiliser la dénomination « Fédération française de jeux à 13 », persévérance ou erreur administrative du ministère, bien que la dite dénomination n'ait plus aucun fondement ni valeur juridique eu égard aux lois de la République. par un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1993, la fédération peut à nouveau s'appeler Fédération française de rugby à 13. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, qui déboute définitivement la Fédération française de rugby, laquelle était allée en cassation, à la suite de son procès d'appel perdu 2 ans plus tôt devant la Cour d'appel de Paris, laquelle confirmait le jugement, en 1987, du tribunal de grande instance de Paris et dont les attendus considéraient qu'en tant qu'appellation générique, le terme rugby ne pouvait relever de l'exclusivité d'une seule fédération, à savoir la Fédération française du rugby à 15, qui sera condamnée aux dépens. Sur le terrain, en 1950, commence alors une nouvelle période de gloire pour le 13. Le 13 de France, des Piobert, Brousse, Dope et Cantoni, guidés par Robert Samatan, Jean Duhaut et Antoine Deblin, atteint son génie lors de la première tournée en Australie. Les Australiens découvrent ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme la plus grande équipe de France de tous les temps. À leur retour d'Australie, plus de 100 000 personnes l'acclament dans les rues de Marseille. Elles renouvellent cet exploit lors des tournées de 1955 et 1960. La première édition de la Coupe du monde de rugby à 13, de la Fédération internationale de rugby à 13, se déroule en France du 30 octobre 1954 au 13 novembre 1954 et voit la victoire de la Grande-Bretagne en finale contre la France. 6 sites accueillent la compétition à travers la France. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Bordeaux. Pour le tout premier match, la France bat la Nouvelle-Zélande 22 à 13 au Parc des Princes de Paris. Bien que nation forte, l'Australie ne parvient pas à se qualifier pour la finale, unique fois dans son histoire. La finale, non prévue avant le tournoi, mais qui a été programmée à la suite de l'égalité de points entre la Grande-Bretagne et la France, oppose les deux nations européennes devant 30 000 spectateurs. Et c'est la Grande-Bretagne qui s'impose 16 à 12 contre la France. Cette Coupe du Monde est considérée comme une grande réussite sportive et populaire, avec près de 20 000 spectateurs par match sur les 7 rencontres de la compétition. Il est vite décidé de récidiver 3 ans plus tard, en 1957, en Australie. Mais malgré quelques sursauts, finaliste de la Coupe du Monde 68, le rugby à 13 français décline petit à petit, notamment à cause de mauvaises politiques fédérales, mais aussi de la mauvaise tenue de certains joueurs en championnat, comme lors de l'édition 1981, où la finale 13 Catalans, Villeneuve-sur-Lot, ne peut aller à son terme. Le renouveau s'amorce un peu au début des années 1990. La France crée une surprise en battant la Grande-Bretagne 25 à 18 chez elle, sous l'impulsion de Gilles Dumas de Saint-Gaudens, et s'impose à 2 reprises contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Coupe du Monde 1989-1992. Ensuite, c'est l'épisode Jacques Fourroux, ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby à 15, puis de Grenoble, qui quitte le rugby à 15, fâché avec ses dirigeants. En effet, en 1993, alors qu'il est le manager du club isérois, Grenoble, Jacques Fourroux est candidat à la présidence de la Fédération française de rugby à 15, en concurrence avec Bernard Lapassé. La qualification de son club en finale du championnat est marquée par une polémique au sujet du jeu de son équipe, critiquée par le président Lapassé. La semaine suivante, en finale, Jacques Fourroux crie au complot, car la finale tourne au scandale, avec une polémique sur l'arbitrage. En effet, un essai d'Olivier Brouzé, le grenoblois, est refusé. Et l'essai décisif du castré Gary Whetton est accordé par l'arbitre Daniel Salles, arbitre de la rencontre, alors que le grenoblois Frank Weber a aplati au préalable le ballon dans son embute, privant ainsi Grenoble du titre. Persuadé d'avoir été volé par la Fédération française de rugby à 15, il se tourne alors vers le rugby à 13 en septembre 1994. Et en 1995, il lance une nouvelle compétition régionale, conciliant rugby à 13 et spectacle musical avec entrée gratuite appelée la France Rugby League. Celle-ci, qui se déroule durant l'été 1995, a un succès réel, tant populaire que médiatique. L'année suivante, une équipe française, le Paris Saint-Germain 13, est invitée à rejoindre le nouveau championnat européen de la Super League, mais cesse ses activités à la fin de la saison 1997, en dépit d'un bon succès populaire. L'entrée d'une nouvelle équipe française en Super League Europe, les Dragons catalans, donne au rugby à 13 français une nouvelle visibilité en 2006. D'autant que cette équipe a réussi à se hisser pour la première fois de son histoire jusqu'à la finale de la Cup à Wembley, jouée devant 85 000 spectateurs et perdue 30-8 contre St. Helens. Toutefois, la situation globale du rugby à 13, par sa structuration, l'encadrement, les finances, l'audience réduite, moitié moins de clubs qu'en 1939, désintérêt de plus en plus profond des médias, demeure relativement incertaine.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.